L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On va aller dans la prière, on va prier pour le message. Et comme vous vous en doutez sûrement pas, le message, c'est un thème de Noël. Et puis le thème ce soir, c'est la naissance du roi des rois. Amen. On sert le roi des rois, Christ est roi, et puis on va parler de lui ce soir. Alors, je vous invite à pencher vos têtes, et puis on va aller dans la prière. Seigneur Dieu, je viens devant toi, Seigneur, ce soir, et je veux te remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Je veux te remercier pour ce privilège qu'on a de se rassembler, Seigneur, pour venir te louer, t'adorer, puis apprendre, Seigneur, de ta parole. Et Seigneur Dieu, on invite la présence de ton Esprit Saint, Seigneur, pendant qu'on est ici. On te remercie, Seigneur, parce que tu changes des vies, tu transformes des vies. Seigneur, tu es tellement un bon Dieu et tu as des bons plans pour nous. Et Seigneur Dieu, je te prie que ce soir, tu puisses éclairer ta lumière sur notre sentier par ta parole et qu'on puisse marcher avec toi, marcher dans tes sentiers de paix, de bonté, puis qu'on puisse vraiment découvrir la vie abondante que tu en réserves pour nous. J'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire ce soir. Amen. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Ésaïe chapitre 9 et au verset 6. Ésaïe chapitre 9 et au verset 6. Si vous n'avez pas votre Bible parce que c'est un banquet, bien, vous pouvez juste écouter. Et puis, je vais lire des textes concernant la naissance du roi des rois. Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que je trouve merveilleux de ce texte-là? Un fils nous est donné, et ça dit, la domination reposera sur son épaule. Et on sait que Jésus a repris l'autorité que Adam et Ève avaient donnée à Satan. Donc l'être humain a cédé son autorité et l'a donnée à Satan, qui est devenu le Dieu de ce siècle, mais Jésus est revenu, puis a tout racheté cette autorité-là, et l'a remis par la suite à l'Église de Jésus-Christ. Donc, Christ est la tête de l'Église, nous sommes son corps, et nous avons l'autorité en tant qu'enfants de Dieu de marcher dans la victoire à tous les niveaux dans notre vie. C'est merveilleux, puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir, comme Jean a dit tantôt, on est ici pour célébrer la naissance du roi des rois. C'est pas juste le petit Jésus qu'on parle des fois, le petit Jésus, on voit, heureusement, on le voit encore sous des sapins, dans des crèches. Vous savez, de nos jours, des fois, on parle tellement du Père Noël qu'on oublie même que c'est la célébration de la naissance de Jésus. Mais c'est même au-delà de ce petit Jésus dans la crèche. Il est véritablement le roi des rois. Et puis, on peut l'avoir dans nos vies. Alors, ce soir, comme on célèbre la naissance de Jésus-Christ, on va voir des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent justement de cette nativité. Vous savez, le mot Noël, ça vient du mot la nativité. Ça vient de ce mot-là. Et puis, avec les années, ça a changé. C'est devenu Noël. Et puis, ce soir, on va voir quelque chose vraiment pertinent concernant la naissance du roi. Dans Jean 3:16, c'est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Encore une fois, on voit la bonté de Dieu. Dieu a donné et Dieu a donné son Fils. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9, c'est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Qu'est-ce qui est merveilleux? Quand on réfléchit à la signification de Noël, on réalise que Dieu a quitté le ciel, toute la dimension de la gloire, toute la richesse qu'il connaissait, toute la perfection du ciel, tout ce qu'on peut s'imaginer dans le ciel. Bien, il a décidé de tout quitter ça pour s'incarner dans la personne de Jésus-Christ sur la terre, puis il a vécu cette vie parfaite. Puis Jésus a tout fait ça pour nous, par amour pour nous. C'est pour ça Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus, le Fils de Dieu, a vécu une vie parfaite sur la terre. Et puis, on peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce grand don. À cause de ce don-là, que nous, les croyants, on comprend ce don-là simplement que Jésus a donné sa vie pour nous. Il est venu avec un but. Il est venu, on sait qu'il est né dans une étable, mais il est venu avec un but précis. Et c'était de mourir pour nous, donner sa vie pour nous. Alors, on peut se réjouir dans le temps de Noël. Puis, constater aussi la grandeur du don. C'est tellement grand. Il a tout laissé, il a tout abandonné pour nous. Et là, ça dit ici, il a quitté toute sa richesse, toute la splendeur du ciel, afin qu'on puisse être enrichi. Et dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, si ça nous parle encore du geste merveilleux que Jésus a fait en venant ici, c'est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et c'est ça qu'on voit, il est devenu, et il a pris une forme de serviteur. Puis quand on veut être comme Jésus, c'est ça qu'on doit vouloir faire, être prêt à servir les uns et les autres. N'est-ce pas? C'est ça, Noël, c'est de réaliser, Jésus est venu, il a tout abandonné, tout laissé, il a tout mis ça de côté par amour pour nous. Et quand on fête Noël, moi je prends toujours le temps avec mes enfants avant de développer des cadeaux, on raconte toujours l'histoire de Noël. On ne passe jamais à côté de ça, c'est jamais passé. On a des enfants 6 ans et 3 ans, puis on n'a jamais développé des cadeaux avant de, premièrement, rappeler nos enfants la vraie signification de Noël, leur raconter toute l'histoire. Puis moi, je me souviens quand j'étais petit, mes parents faisaient toujours ça aussi. Avant de développer des cadeaux, même on écoutait un long disque, comme on dit, les disques en vinyle. Il fallait tout écouter la prédication sur Noël avant de développer les cadeaux. Puis je me souviens dans le temps, je trouvais ça bien long. C'est comme, ah, ça va-tu finir, là, ça va-tu finir? Mais c'était important de le faire parce que ça a été un dépôt dans mon cœur. Et je sais aujourd'hui pourquoi on célèbre Noël. On célèbre Noël à cause de Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans Michée chapitre 5 et verset 2, ça nous parle de l'endroit où Jésus est venu au monde. C'est dans la ville de Bethléem. Et ça dit ici, « Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Si on parle de Jésus qui a toujours existé, il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin, il a toujours existé et il dominera sur Israël. Mais aussi, on sait que dans la parole de Dieu, dans Habacuc 2, verset 4, ça dit qu'il va dominer sur toute la terre, sa gloire va être répandue partout sur la terre. Et nous sommes heureux parce que nous pouvons avoir même le début de cette gloire-là en dans nous et parmi nous dans nos réunions. Amen. Et Bethléem, qu'est-ce qui est spécial? C'est, ça nous parle, le mot Bethléem, ça nous parle maison de pain. Maison de pain. Et puis, c'est une raison pourquoi Dieu a choisi que son fils vienne au monde à Bethléem, parce qu'il était véritablement le pain de vie. Puis on voit ça dans Jean chapitre 6, versets 32 à 35. C'est dit, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, le pain du ciel est descendu. Et puis aujourd'hui, nous, on peut avoir cette relation d'amitié avec Dieu. On peut littéralement recevoir le pain de vie en dedans de nous, qui va toujours demeurer en nous. Et puis là, on passe de la mort à la vie, puis on peut entrer au ciel, sachant que tous nos péchés ont été pardonnés. C'est la simplicité de l'Évangile ce soir, simplement de savoir que Jésus est venu pour nous. C'est merveilleux. Puis quand on donne des cadeaux, bien, c'est un geste de célébration, c'est un geste de fête. Et c'est ça que j'expliquais à mes petites filles. J'ai dit, nous, on se donne des cadeaux, là, mais c'est parce qu'on est tellement content du grand cadeau que Dieu nous a fait. Et puis, ils comprennent ça. Puis, des fois, ils peuvent oublier rapidement parce qu'ils disent, j'en ai-tu d'autres cadeaux? J'en ai-tu d'autres? Là? C'est quoi le prochain, là? C'est souvent comme ça. Puis là, il faut les ramener. Oui, mais là, on célèbre la fête de Jésus, là. Là, t'en as déjà 25 cadeaux. Et puis, mais c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Mais ça, c'est merveilleux de savoir que quand on se rappelle de Noël, on se rappelle que Dieu a fait un don. Et puis, on voit aussi dans l'histoire de Noël qu'il y en a d'autres qui ont fait des dons, entre autres les bergers. Quand on lit le récit de Noël, on voit que les bergers ont fait un don. Peut-être vous allez dire, ah oui, mais quelle sorte de don? On va voir dans Luc chapitre 2 et le verset 16. Ici, on voit ce que les bergers ont fait. C'est dit, ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'ils leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Au verset 20, ça dit, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Donc, on voit les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raconté aux gens qu'est-ce qu'ils avaient vu et puis ensuite, ils ont glorifié et ils ont loué Dieu. Et puis nous, dans le temps de Noël, on peut faire pareil. On peut raconter aux gens ce que Jésus a fait dans nos vies et on peut louer Dieu. Amen. On peut faire ça dans le temps de Noël, même dans le temps de Noël, quand les gens nous voient heureux et ils se demandent, mais c'est quoi que t'as, toi, que nous autres, on n'a pas? Bien, vous pouvez raconter la joie que vous avez de connaître ce Jésus de la parole de Dieu. Puis vous savez, Jésus n'a jamais changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que Jésus a fait dans la parole de Dieu, il est encore prêt et il veut encore l'accomplir aujourd'hui parmi nous. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, on croit la parole de Dieu, on sait qu'il n'y a pas de distance avec la prière. Dieu, on ne peut pas le voir juste au ciel, super loin, et nous, on est ici sur la terre. Mais non, Dieu est parmi nous. Puis quand on a un besoin, quand on est triste, Dieu est là. Quand on est dans la joie, Dieu est là aussi. Mais Dieu est simplement à une distance d'une seule prière. Simplement en disant le nom de Jésus, Dieu est là parmi nous. Et puis, on peut le louer, on peut le glorifier parmi les hommes. Et puis, on voit également d'autres dons. Bien sûr, les mages ont donné. Dans Matthieu chapitre 2 et le verset 11, ça nous parle qu'ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et l'or, ça représentait la divinité de Jésus-Christ. Donc, il est Dieu. Et l'encens, c'est un geste d'adoration. Vous savez, nos prières montent vers le Seigneur comme de l'encens. Ça monte vers le Seigneur. Et puis l'encens, ça représentait l'adoration. Et le myrrhe, c'était des épices pour l'huile d'onction. Donc, c'était une représentation du Saint-Esprit parmi nous. Donc, c'est important de voir ça, comment même les mages ont fait des dons comme ça dans le temps de Noël. Alors, nous, on a une bonne raison de célébrer, de donner des dons. Et peut-être ce soir, vous êtes en train de vous demander, mais c'est quoi que moi, je peux faire comme don à Dieu, pour plaire à Dieu? Vous savez, on connaît Jésus-Christ, on entend parler de lui, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour lui donner la joie? Bien, dans la parole de Dieu, ça dit que c'est pas la volonté de Dieu que personne périsse. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est donner notre vie à Jésus-Christ. Et c'est tellement simple, c'est simplement reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur et lui dire, Seigneur, moi je veux te donner ma vie, fais-en quelque chose de bien. Je te donne ma vie, prends-la et puis transforme-la, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Puis quand on fait ça, Dieu vient habiter en dedans de nous et nous donne la vie éternelle. Donc ça, c'est la première chose. Mais également, en tant que croyants, ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, ce qu'on peut faire, nous, c'est prendre une résolution, une bonne résolution qu'on va toujours garder. Et c'est une résolution de foi. Et moi, c'est mon cœur, c'est mon désir que chaque personne ici va désirer aller plus loin dans la foi, avoir plus de foi dans les choses de Dieu, pour qu'on puisse voir plus de la gloire de Dieu parmi nous. Donc, cette année, et puis vous savez, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, ça va être en 2009. La semaine prochaine, on se voit l'année prochaine. Mais l'année prochaine, j'espère que vous aurez tous pris cette décision-là, cette résolution d'aller plus loin dans votre foi avec Jésus. Vous savez, des fois, les gens me demandent la question, « Toi, Joël, c'est quoi ta résolution pour l'année, pour le nouvel an qui commence? » Et puis, je peux vous dire, comme je l'ai déjà dit dans le passé, mais à chaque année, c'est mon désir, et de jour en jour, c'est mon désir, mais c'est de m'approcher de Dieu. Qu'à chaque année, je puisse voir que je suis encore plus proche de Dieu. Je m'approche de jour en jour, plus proche de Dieu, plus de lui dans ma vie. Et j'espère que ça va être votre prière aussi. Dans Hébreux 11, chapitre 6, je vais vous lire ça dans la Bible français courant. Ça dit, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc dans Hébreux chapitre 6, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et on sait qu'on a tous un dépôt de foi dans nous, n'est-ce pas? On l'a vu dans d'autres semaines. Dieu a donné la foi à tout le monde, mais il y a des personnes qui vont placer leur foi dans l'astrologie, d'autres vont placer leur foi dans la réincarnation, d'autres ils vont placer leur foi, par exemple, dans l'évolution. Mais Dieu nous appelle à placer notre foi dans sa parole, qui est la source de vérité. Et la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi active, une foi développée. Quand on développe notre foi en Dieu, cette foi que Dieu a donnée à tout le monde, okay? Mais quand on la développe en écoutant la parole de Dieu, on grandit dans notre foi et on devient musclé spirituellement. Si on va au gym, on devient plus musclé, mais pareillement, spirituellement, le plus qu'on entend la parole de Dieu, le plus que notre foi peut grandir et le plus qu'on peut voir des grandes choses dans nos vies. Donc, ça dit, Hébreux 11:6, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, moi, je crois que Dieu veut nous récompenser. Dieu veut nous démontrer, nous accorder sa faveur. Croyez-vous ça ce soir? Amen. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour plaire réellement à Dieu, pour développer notre foi? Bien, faut s'approcher de Dieu, mais ça prend quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit donner à Dieu pour bâtir notre foi. Une chose, c'est très, très simple, et c'est la chose suivante, du temps. Simplement du temps. C'est tout ce que Dieu demande. Et vous savez, dans nos vies, on peut tous dire, « Ah, ben je suis super occupé, j'ai tellement de choses qui est là, qui me garde occupé. » C'est vrai, on a tous des raisons d'être occupés. Mais on a tous 24 heures par jour. Alors, on doit tous décider, à quelque part, que moi, je vais prendre du temps pour Dieu. À chaque jour de mon année, là, je vais prendre du temps, je vais mettre du temps à part pour chercher la face de Dieu pour ma vie. Puis dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, j'ai là en français courant encore, ça dit, « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Donc, préoccupez-vous, c'est une occupation, rechercher Dieu. La connaissance de Dieu, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il faut chercher Dieu. Il faut mettre des énergies, des efforts pour aller dans la parole de Dieu, lire ce que Dieu nous dit, écouter la parole de Dieu, se remplir, ça prend du temps. Mais quand on prend le temps à chercher la face de Dieu, Dieu se manifeste. Puis on est tellement heureux parce que Dieu nous parle, Dieu nous guide. Puis Dieu nous guide toujours dans la bonne direction, au bon port. Dieu ne nous guide jamais dans une mauvaise direction. Alors, quand on marche avec Dieu, on est rayonnant de joie. Alors, ça, c'est une chose. Et une des choses que j'avais à cœur pour vous aider à développer votre foi et avoir une foi bien fondée, c'est que, vous savez, ça fait des années que je pense à ça. Et je pensais toujours qu'il faut le faire. Mais il y a quelques semaines, j'ai été contacté par les Églises de la Victoire en Alberta. Puis ils m'ont demandé, ils ont dit, avez-vous de la littérature pour nous aider à un certain niveau pour bâtir les gens dans la foi? Puis là, je peux vous dire que non, je pouvais répondre, je ne l'ai pas de près encore. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement référé ces personnes-là dans un autre ministère. Mais ça m'a vraiment parlé. Qu'est-ce que ça montrait? C'est qu'il faut que je me préoccupe à vraiment écrire un livre sur les nouveaux croyants, pour les nouveaux croyants. Donc, un livre de disciples. Et puis ça, c'est une des choses que j'ai à cœur et que je suis en train de faire. Je suis rendu au troisième chapitre. Et puis, ça s'appelle, puisque l'église ici, c'est l'église de la victoire, ça s'appelle, j'essaie de m'en rappeler, là, le disciple victorieux. Parce qu'on est appelé à faire des disciples, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Ça fait qu'on va commencer ça. Je suis en train d'écrire le manuel, le disciple victorieux. Et puis, puisque la majorité d'entre nous, on est déjà croyants, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire tout le matériel ensemble, mais ça va être non seulement pour vous bâtir personnellement, mais pour vous aider à bâtir d'autres personnes dans la foi, que vous allez pouvoir utiliser ça. Puis je vais vous enseigner comment utiliser le manuel pour aider les gens à grandir dans la foi. Puis si vous êtes une nouvelle personne dans votre foi en Jésus-Christ, bien, ça va être merveilleux. Vous pouvez le suivre en même temps que tout le monde. Donc, le cours, ça va être le disciple victorieux. Et puisqu'on ne veut pas rajouter trop de soirs pendant l'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fin de semaine intensive. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais on veut s'investir, on veut donner du temps à Dieu. Et puis, quand on va se rencontrer, on va peut-être faire ça dans un genre de petit bed and breakfast ou je ne sais pas trop, peut-être une auberge où on va pouvoir juste passer toute une fin de semaine à prier et puis à étudier la parole de Dieu ensemble. Et on va devenir des disciples victorieux et puis on va aider aussi par la suite d'autres personnes à marcher dans la victoire. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ça prend du temps. C'est ça la clé secrète ce soir. Il faut donner du temps à Dieu. Et puis, Dieu va nous enseigner. Et dans Matthieu 28, verset 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc ça, c'est un commandement. « Allez, faites des disciples. » On est appelé à bâtir les gens. Puis au verset 20, ça dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais une chose, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que vous enseignez quelqu'un présentement dans les voies de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes engagé présentement à enseigner quelqu'un dans les voies de Dieu? Si la réponse est non, bien, il y a une merveilleuse opportunité qui se dresse devant vous. Vous pouvez devenir des formateurs dans la victoire puis enseigner d'autres personnes. Puis en parlant avec des croyants, j'ai demandé à certains frères et sœurs, j'ai dit, toi, quand tu as été sauvé, est-ce que quelqu'un qui a été là pour t'aider dans ton cheminement, pour t'enseigner vraiment la base de la vie chrétienne? Et souvent, on me dit, non, moi, j'ai jamais eu ça. Personne ne m'a jamais enseigné vraiment comment marcher avec Dieu. Alors, ça, c'est mon désir. C'est pas simplement d'établir une église pour avoir une église, mais on veut voir des gens qui s'élèvent ici, qui connaissent la parole de Dieu et qui connaissent pourquoi on croit ce qu'on croit. Vous savez, dans ce manuel-là, c'est presque rien que la parole de Dieu. J'écris juste à peine, juste des petits titres pour expliquer ce qu'on croit. mais c'est la parole, plein de versets, verset après verset, parce que même moi, là, ce que je peux écrire, qu'est-ce que ça va changer en réalité? Je peux écrire, puis je vais sûrement écrire, je crois, là-dedans, dans la littérature chrétienne, mais quand je pense à ce qu'on fait, là, faut que ça dure éternellement. Puis je me dis, il y en a plein de personnes qui écrivent des livres. C'est vrai, vous pouvez aller à la librairie chrétienne, puis acheter plein de livres. Mais c'est quoi qui dure vraiment, là? C'est des choses qui changent des vies. Puis la parole de Dieu, c'est ça qui change des vies. Ça fait que moi, ce que je fais, j'écris un titre, et puis là, un verset, un verset, un verset. Vous allez lire la parole de Dieu dans le petit livre, et puis on rassemble des versets pour vous aider à grandir spirituellement. Puis par la suite, aider d'autres personnes aussi. Vous pourrez voir, bien, ici, on croit comme ça. Puis là, vous allez dire, « Ouais, mais Joël, si jamais, moi, je ne crois pas exactement comme toi sur un point, c'est quoi que je vais faire? » Bien, ce que vous faites, vous dites, l'enseignement de la maison, c'est ça. Le pasteur croit ça. Et puis, vous vous arrêtez à ça. Puis là, vous lisez les versets avec la personne. Parce qu'on ne veut pas contredire. Ça, c'est une chose qui est certaine. On ne veut pas contredire l'enseignement de la maison. On veut bâtir dans l'unité. Mais vous allez voir, c'est tellement biblique que c'est impossible de ne pas être en accord. Parce que c'est biblique au bout. Donc, là, ma question. Êtes-vous présentement positionné pour obéir à ce commandement? Est-ce que vous êtes positionné? Peut-être, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes en train d'enseigner quelqu'un? Puis peut-être c'est non la réponse, mais vous pouvez vous mettre en position et enseigner. Mais peut-être vous vous dites, ouais, mais moi, je ne peux pas aller par tout le monde et prêcher. Moi, j'ai mon emploi, il faut que je travaille lundi matin. Je ne peux pas aller partout. Bien, savez-vous, vous pouvez aller par tout le monde par vos dons, comme vous faites régulièrement. On rend gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, prochainement, on va commencer des émissions de télévision pour une station de télévision. Et c'est en Martinique. C'est tellement merveilleux, la porte que Dieu nous a ouverte. En Martinique, on a été contacté par un ministère là-bas. Donc, on va faire l'évangélisation par les médias à la télévision. Alors, vous pouvez vous impliquer, puis il va y avoir même des façons pour vous de vous impliquer dans l'émission de télévision, si ça vous intéresse. On va voir avec vous c'est quoi vos capacités. Des fois, c'est juste à titre d'aider peut-être à établir les choses En tout cas, on pourra en parler plus longuement sur les choses techniques qu'on peut faire, aussi la prière, les offrandes vis-à-vis de ça aussi. Mais surtout la prière, parce qu'on a tellement une belle opportunité en Martinique, en Guadeloupe, et puis en Guyane française. Alors, c'est toutes des belles places qui nous ont contactés pour avoir des émissions de télévision, et puis on va commencer à faire ça au mois de janvier. Et puis, on va leur envoyer tout ça, et puis là, ils vont pouvoir recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est un ministère par là-bas qui ne croit pas au don du Saint-Esprit. Et puis j'ai trouvé ça assez particulier parce que j'ai dit, mais vous m'avez contacté? Ils ont dit oui. Puis j'ai dit, connaissez-vous mon ministère un petit peu? Ils ont dit non, pas du tout. J'ai dit, oh non, comment ça vous m'avez contacté? Ah ben c'est la référence d'une autre personne qui connaissait votre ministère par l'Internet, puis il savait que vous avez fait de la télévision, alors on vous contacte. Mais c'est merveilleux. Et moi, au début, quand la personne me disait qu'est-ce qu'il croyait, qu'est-ce qu'il ne croyait pas, là, j'étais comme, mais pourquoi qu'il me contacte? Mais savez-vous ce que je réalise? C'est que Dieu est en train de faire un chemin que l'homme ne peut pas empêcher. C'est que ce que Dieu va vouloir qu'il soit prêché, ça va être prêché. Puis c'est eux autres même qui nous appellent pour l'avoir. Et j'ai parlé pendant une demi-heure avec lui. Puis à la fin de la conversation, là, il disait, tout ce que vous voulez nous donner, on va le passer à la télévision. C'est qu'il était super ouvert par la suite. En tout cas, Dieu est en train de faire des choses, mais Dieu a besoin de notre foi pour lui plaire. Et puis, notre foi peut être exercée d'une façon tangible, vraiment, par l'évangélisation, en s'impliquant, en devenant un disciple victorieux soi-même, et puis en se positionnant à travailler dans le ministère des médias que Dieu nous confie. Une autre chose qu'on doit faire aussi, c'est prendre une autre résolution. C'est la résolution de marcher dans l'amour et dans l'unité parmi nous. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 12, et le verset 29. Ici, ça dit, « Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Et c'est ça, c'est sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est avoir cet amour pour Dieu, ou quand Dieu nous invite à entrer dans sa présence, dans la prière, on ne voit pas ça comme un fardeau, mais on prend du temps dans la prière, puis on voit ça comme étant un privilège de prier, puis de chercher la face de Dieu. C'est un privilège parce que Dieu nous parle dans ce temps-là. Quand on prie, puis on cherche la face de Dieu, Dieu parle à notre cœur, Dieu nous révèle des choses. Quand on lit sa parole, on grandit davantage, puis on est heureux, puis on découvre comment Dieu est merveilleux pour nous. Puis il y a un autre texte, j'aimerais ça vous inviter à tourner dans Psaume 46. Et le verset 1, psaume 46, vous savez, dans notre vie tellement occupée, on peut commencer une année comme on a vécu, vous savez, faire la même chose, ou on peut s'arrêter et dire, sais-tu, cette année, j'ai été très occupé, l'année qui s'en vient, là, je mets plus de temps de côté pour Dieu. Je m'en vais plus profondément dans la foi en Jésus-Christ. On peut prendre la décision, prendre une bonne résolution. Et dans le psaume 46 et le verset 11, il est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Amen. Arrêtez. Dieu vous dit, arrêtez ce que vous faites et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça prend encore? Ça prend du temps. Quand on s'arrête, on prend du temps pour savoir que Dieu est Dieu. Amen. Donc ça, c'est une chose. Aimez Dieu et aimez votre prochain également. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va marcher dans l'unité. Parce que vous savez, comme Dieu nous appelle à fonder une église ici à Bromont, il y a toute une dimension spirituelle qui ne veut pas que cette église ouvre. On sait c'est qui. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, ça dit, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a toutes des armées, comme on vient de lire ici, ça nous parle d'armées, l'Éternel des armées est avec nous. On sait ici, on vient de le lire dans psaume 46, verset 11, donc Dieu est avec nous. Mais on sait aussi qu'il y a toute l'opposition spirituelle qui veut empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu ici à Bromont. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être conscient qu'une guerre a plusieurs fronts. À toutes sortes de dimensions, il y a des guerres, il y a des obstacles à cette église unie que Dieu nous appelle à fonder. Et une des choses, c'est la guerre de l'extérieur. Bon, c'est sûr, le monde, sans le savoir, peuvent être animés de cette haine de Dieu. Et nous, on doit savoir réaliser que ce n'est pas vraiment les gens en question, c'est plus l'esprit de ce monde. Donc, si on comprend ça, on va aimer les gens, malgré les choses qu'ils peuvent nous dire. Donc, ça, c'est une chose, c'est vraiment avoir le désir de cette Église unie, comprendre qu'il y a une opposition mondiale, et également comprendre qu'il y a un esprit indépendant dans le monde, surtout au Québec, un esprit de séparatiste. Je ne parle pas de politique ici, mais je parle d'un esprit d'être indépendant. Toi, tu fais ton affaire, moi, je fais mon affaire. Est-ce que vous connaissez peut-être des chrétiens comme ça aussi? Des gens de foi, ils disent, toi, tu fais ton affaire, moi, je fais mon affaire. Mais nous, on veut marcher unis en amour avec Jésus-Christ et on veut s'aimer les uns les autres aussi. Donc, si on bâtit une église dans la victoire, il faut bâtir une église ici de gens qui sont en amour avec Dieu et puis qui comprend, on comprend que le but ultime, c'est vraiment la destination. On veut bâtir quelque chose à la gloire de Dieu, un ministère pour la francophonie, pour rejoindre les Français par les médias. Mais on peut avoir une vision à court terme et voir des obstacles. « Ah, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. » Et là, on a nos yeux juste sur les choses à court terme. Et quand on a les yeux à court terme, on manque les bénédictions à long terme. Ça, c'est une réalité. Vous savez, quand le Miracle Channel a été construit dans les années 90, il y avait des gens, au début, ils ont vu la vision, ils ont osé croire que c'était possible. Même s'il y avait des gens qui disaient, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, c'est bien trop grandiose comme projet. Et je me souviens, le président du Miracle Channel me disait, autrefois, il parlait avec des gens, des pasteurs, et puis les gens riaient de lui parce qu'il disait, c'est bien trop grandiose. Et je l'ai déjà partagé ici, mais les gens, il y avait des gens qui voyaient juste à court terme. Ils voyaient l'investissement. Ah, je ne suis pas prêt à m'investir, c'est trop. Mais il y en a d'autres qui voyaient à long terme, qui voyaient, hey, ça vaut l'investissement, ça vaut la peine ou ça vaut la joie de m'investir dans cette armée, dans les médias qui s'élèvent. Et moi, je suis tellement content parce que je sais qu'il y a une armée qui s'élève ici à Bromont. Des gens qui ont une vision à long terme, qui peuvent voir au-delà des nuages, au-delà des obstacles. Et vous savez, je sais qu'il y en a des obstacles. On n'est pas ignorant de ces choses-là. Mais on sait que Dieu est le Dieu des armées. On sait que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et puis comme mon épouse a eu un rêve il y a quelques semaines, et je l'ai partagé, mais je vais le répéter encore ce soir, elle avait un rêve comme quoi il y avait des obstacles qui se dressaient devant nous, mais moi, Dieu m'avait donné un genre de manette dans mon auto où notre véhicule planait au-dessus de toutes ces choses-là. C'est merveilleux. Dieu nous appelle à planer au-dessus de toutes les épreuves qui sont là, au-dessus de tous les obstacles. Dieu nous appelle à être cette armée victorieuse. Amen. Faites-vous partie de cette armée victorieuse aujourd'hui. Amen. Donc, le Seigneur peut-être vous demande ce soir à prier et savoir comment est-ce que je peux vraiment bâtir une église unie qui glorifie Dieu. Comment est-ce que je peux vraiment m'impliquer? et faire quelque chose qui va faire un impact et avoir une vision à long terme. Et puis également, il y a la guerre intérieure, donc c'est une guerre charnelle. Donc, une personne a besoin d'une valorisation personnelle immédiate. Admettons, vous avez à cœur d'être prédicateur et puis parce que vous ne prêchez pas de dimanche prochain, vous êtes offensé et vous quittez l'Église. Mais là, ça, c'est quelqu'un qui a un désir ou un besoin d'une valorisation personnelle, mais immédiate. On doit être prêt à être patient puis attendre aussi. Ou l'autre côté, c'est un sommeil, le sommeil spirituel. On est tellement pas engagé dans notre foi avec Dieu qu'on dort et puis Dieu ne peut pas nous parler. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de choses que Dieu voudrait qu'on fasse, mais on est en train de dormir dans notre love seat. Puis finalement, les bénédictions passent à côté de nous. Je connais un frère, je parlais avec lui. Il me dit, Joël, on dirait là qu'il y a tellement de bénédictions qui passent à côté de moi parce que je ne me mets pas en position pour être béni de Dieu. Il me racontait ça, puis j'ai dit, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien qui t'empêche de te mettre en accord avec Dieu. Aujourd'hui même, tu peux dire, Seigneur, je veux croire ta parole, je veux te donner ma vie, je veux marcher dans ta volonté. C'est aussi simple que ça. Et là, on est béni de Dieu, puis on est heureux. Pourquoi laisser les bénédictions passer, puis là dire, si seulement j'avais fait quelque chose dans le temps, si seulement j'avais pu m'investir, ah là, je vois toutes les bénédictions, je vois ces gens-là bénis, si seulement j'avais fait quelque chose. Soyons pas comme ça. Au contraire, soyons vigilants, et ayons la vision de l'avenir et puis qu'on puisse célébrer Noël comme personne d'autre au monde, des gens qui ont une révélation de la gloire de Dieu, mais aussi, oui, je veux marcher par la foi, je veux développer la foi que Dieu m'a déjà donnée, mais aussi je veux marcher en harmonie dans l'Église avec mes frères et mes sœurs, je veux être fidèle envers le Seigneur dans mon Église locale, je veux aimer tout le monde. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé, ou il y a 2 semaines plus tôt, j'ai parlé qu'avec Dieu, rien n'est impossible, il n'y a absolument rien d'impossible pour nous. Tout est possible pour l'enfant de Dieu. Tout est possible. Mais ce qu'on doit faire, c'est se mettre en position pour que Dieu se serve de nous. C'est tout aussi simple que ça. Donc, on doit avoir le désir de marcher dans l'unité et de ne pas dormir ou mettre de côté le problème du « je ». Vous savez, ça, c'est souvent dans les églises, le problème du « je ». Je veux faire ci, je veux faire ça, je ne veux pas faire ça. Il y a toutes sortes de façons, le « je » peut empêcher les bénédictions. Dieu, aujourd'hui, nous appelle à une révolution d'amour. Vous savez, Jésus, ici, il parlait, et je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 25, si je termine avec ce passage. Dans Matthieu chapitre 25, commençant au verset 31, je vais vous lire un texte ici, vraiment la révélation de l'amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi qu'on veut voir? On veut voir ici qu'est-ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 25, verset 31, c'est dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Verset 34, « Alors le roi, en parlant de Jésus, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Verset 37, les justes lui répondiront, « Seigneur, quand avons-nous fait toutes ces choses ?» Et là, au verset 40, le Seigneur dit, « Et le roi leur demanda, ou leur répondant plutôt, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors ça, c'est la révélation de l'amour qu'on voit ici. Quand on est prêt à aider notre prochain, quand on est prêt à visiter l'orphelin, quand on est prêt à visiter celui en prison, quand on veut mettre des pas à nos paroles, quand on veut faire des gestes pour vraiment démontrer cette foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? C'est simplement établir une église de personnes intellectuelles qui comprennent des principes de victoire, mais qui ne sont pas actifs à marcher dans la victoire. On veut que chaque personne ici soit comblée dans leur vie chrétienne, qu'ils puissent vraiment goûter à la victoire et qu'ils puissent aussi déborder dans la victoire, que chaque personne qui rencontre puisse voir cette personne-là a goûté à la bonté de Dieu, puis moi j'ai soif de la même chose. Amen. Donc, Noël, on est en train de fêter la naissance de Jésus, et puis le jour de l'an, ça s'en vient. Alors, je vous encourage à prendre des bonnes résolutions dans la foi et de mettre de côté toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Dieu a toujours des bons plans pour chacun d'entre nous. Il faut avoir la vision de Dieu. Alors, quand on va s'en aller dans un temps personnel, à la maison, quand vous allez prier, demandez au Seigneur de vous donner une vision claire, une vision pour votre avenir. 2009, demandez-lui, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse en 2009? Donne-moi la vision pour ma vie. Et le Seigneur est tellement bon, Dieu va se révéler à vous. Mais la première chose qu'il faut faire pour être dans sa volonté, pour être dans notre destinée, le premier pas, c'est de dire oui à Jésus-Christ. Puis c'est simple, comme on a lu tantôt, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça qu'on célèbre à Noël. On célèbre le don que Dieu a fait à l'humanité, celui de son Fils. Les hommes étaient perdus dans le péché. Il n'y avait aucune façon de sauver, se sortir de ce monde de péché. Mais Dieu est venu ici sur la terre et puis il a dit, moi, je vais vivre la vie parfaite et je vais recevoir la punition que mérite le péché. Vous autres, vous ne serez même pas punis. Je vais tout porter à votre place. Vous avez simplement à me donner votre cœur, à placer votre foi en moi. Et puis, bingo, c'est fait. On est sauvés en route pour le ciel. Amen. C'est merveilleux. On fête un grand Dieu aujourd'hui. On fête la naissance du roi des rois. Et puis ce soir, avant d'aller manger, je sais, on sent déjà la nourriture, c'est bon. Mais je veux vous encourager à vraiment prendre cette décision-là aujourd'hui, que vous allez mettre Dieu en premier dans votre vie.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.